Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de l'histoire de Montréal. Donc, une série qui prend place dans le cadre des commémorations du 375e anniversaire de Montréal. Une série qui est consacrée aux figures marquantes, aux grands personnages qui ont marqué cette grande cité québécoise dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ce soir, il sera question d'un homme qui a marqué la scène politique montréalaise durant toute la seconde moitié du 20e siècle. Un homme vraiment marquant, Jean Drapeau. Jean Drapeau, qui est né en 1916 dans le quartier Rosemont et qui est décédé en 1999. Jean Drapeau, à qui les Québécois, mais aussi les Montréalais, doivent énormément. Ils lui doivent, bien sûr, comme on sait, la Place des Arts. On lui doit le métro de Montréal. On lui doit l'Exposition universelle de 1967, les Jeux olympiques de 1976. On lui doit beaucoup de choses. Mais malgré tout ce legs, malgré cet héritage, son héritage reste controversé. Pour les uns, Jean Drapeau est un authentique visionnaire, un homme qui aurait mis Montréal sur la carte, qui en aurait fait une grande cité internationale. Pour les autres, c'est un chef politique autoritaire, un mégalomane qui a laissé beaucoup de dettes, un homme aussi autoritaire qui a adopté, comme on le sait, un règlement contre les manifestations en 1969. On se souvient que c'était une période assez trouble. Mais quel que soit le bilan que l'on fasse de l'ère Drapeau, on s'entend en général sur deux choses. On s'entend sur le fait que c'était un homme extrêmement engagé, un homme très dévoué, qui a eu foi dans Montréal, qui a eu foi et qui s'y est vraiment consacré, corps et âme. On s'entend aussi sur ses qualités personnelles, son charisme, son magnétisme, sa capacité à vendre ses projets. Je vous raconte une anecdote. Je vous raconte une anecdote qu'on viendra avec notre invité. Durant les années 60, il rencontre le premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, pour lui convaincre d'aménager des îles en plein milieu du Saint-Laurent, qui serait le site d'Expo 67. Avant cette rencontre, le premier ministre du Canada n'en revenait pas de cette proposition. Il dit « Le Canada, c'est quand même 4 millions de milles carrés et lui veut qu'on ajoute du territoire au milieu du Saint-Laurent. » Et c'était le maire Drapeau. Mais il a fallu d'un repas pour convaincre le premier ministre du Canada de sortir son carnet de chèques et d'appuyer un tel projet. Des histoires comme celle-là, il y en a plein. Il y en a énormément sur le maire Jean Drapeau. Pour nous parler donc de ce personnage d'exception, on a invité un historien qui est spécialiste de la période contemporaine, spécialiste de l'histoire politique. C'est aussi quelqu'un qui œuvre dans l'administration municipale depuis plusieurs années, donc qui connaît un peu Montréal de l'intérieur. Je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Jean-Charles Paneton. Bienvenue.
Éric, merci. Merci de me recevoir.
Donc, Jean Drapeau. Jean Drapeau, vous avez écrit un livre, votre dernier livre porte sur le gouvernement Lévesque. Vous avez écrit une biographie de Pierre Laporte, Georges-Émile Lapalme. Vous avez croisé Jean Drapeau dans toutes vos recherches. Si on avait à résumer cet homme-là en un mot ou une expression, quelle serait-elle?
En un mot, ça serait difficile, mais disons qu'on pourrait dire que Drapeau, ça correspond, le seul nom même de Jean Drapeau correspond à un âge d'or de Montréal. On peut indéniablement dire ça. On peut dire que Drapeau, ce sont de grands projets, ce sont aussi de grands événements internationaux qui ont été réalisés sous son administration. C'est un des, je dis toujours, les colosses politiques de l'époque. On a Pierre-Éliott Trudeau à Ottawa, on a René Lévesque à Québec et on a Jean Drapeau à Montréal. Donc, un colosse important du 20e siècle.
Et dans l'histoire des maires de Montréal, hein, on pense, les gens comme Médéric Martin ont été un peu oubliés. Camélien Houde est resté. Jean Drapeau est resté. C'est un peu une sorte de...
On pourra peut-être y revenir, pas pour les mêmes raisons. Alors, Camélien Houde, c'est un maire plutôt populiste, plutôt conservateur. Drapeau est conservateur aussi à sa façon, mais Drapeau, c'est autre chose. Drapeau, il est issu d'une autre classe, la classe moyenne comme telle, alors que Camélien Houde, c'est plutôt la classe ouvrière avec tout le discours populiste, comme je le mentionnais. Donc, c'est deux maires assez différents. Drapeau est là pendant 29 ans. Donc, il est là pendant que 7 premiers ministres se succèdent à Ottawa et 9 se succèdent à Québec. Imaginez. Eh bien, il y a Jean Drapeau qui, lui, reste toujours en place à la mairie de Montréal. Donc, c'est une classe à part, Jean Drapeau, dans les maires de Montréal, c'est sûr.
Alors, justement, revenons un peu, parlons des débuts, parlons de l'homme, de ses origines. Situez-nous un peu Jean Drapeau socialement et surtout sa famille. D'où vient-il? Quel genre de famille, dans quel genre de famille grandit-il?
Bien, Jean Drapeau va être élevé à Rosemont. D'ailleurs, il va y mourir. Donc, toute sa vie, il sera à Rosemont, dans le quartier de Rosemont. Bon, si on fait un petit retour dans le temps, Rosemont, à l'époque, est un quartier où on retrouve un certain nombre d'ouvriers qui sont beaucoup, qui travaillent à l'usine Ingus, là, qui est maintenant le Technopôle Ingus. C'est une des plus grandes usines du Canada. Donc, il y a beaucoup d'ouvriers qui s'y retrouvent, mais on trouve aussi beaucoup de la classe moyenne. Son père, Joseph Napoléon Drapeau, est quelqu'un qui est issu d'une classe de conditions plutôt modestes au départ, mais c'est quelqu'un qui va se débrouiller, qui a beaucoup d'initiatives. Il va pratiquer, entre autres, il va être courtier d'assurance, il va être agent immobilier, tout ça. Il va avoir un certain succès, ce qui fait que la famille Drapeau va être élevée dans un certain confort comme tel. Sa mère, Berthe Martineau, est une cantatrice dans ses jeunes années. Bon, évidemment, une carrière professionnelle qu'elle devra abandonner lorsqu'elle va se marier avec Joseph Napoléon. Et donc, ça amène toutefois quand même tout le chant classique et tout cet aspect culturel-là dans la vie familiale. C'est une femme qui chante souvent, c'est une femme qui est très heureuse et tout. Et ça va avoir évidemment un impact sur les enfants. Jean Drapeau va toujours, toute sa vie, aimer le chant classique, aimer l'opéra, aimer la musique classique aussi. Donc, c'est quelque chose qui est une influence qui est très importante.
Parlons de ses idées.
Oui.
Essayons de comprendre l'univers intellectuel de Jean Drapeau. Je l'ai dit dans ma présentation, il a été souvent perçu, surtout par les gens qui étaient de sensibilité de gauche, comme un homme autoritaire et tout ça, une conception particulière de la démocratie. Quelles sont ses grandes influences? Hein? C'est quoi l'univers intellectuel de Jean Drapeau, qui va, les auteurs de référence?
Bien, d'abord, replaçons un petit peu le contexte de l'entre-deux-guerres. Donc, il suit ses cours dans les années 30 comme tel. Les années 30 sont des années qui suivent une crise assez terrible, le crash. En fait, les années 30, ce sont des années de crise. Ça suit le crash de 1929. Et il y a toutes sortes de solutions un peu, qu'on pourrait dire, extrêmes qui se présentent à l'époque, des solutions souvent de droite, comme le fascisme, le corporatisme. Ce sont toutes des idées qui circulent beaucoup dans la société, pas juste au Québec, mais partout en Occident. Des réponses que l'on tente de donner à la misère humaine, la misère à laquelle est confrontée un grand nombre de citoyens, de personnes, de travailleurs. Drapeau est donc dans cet univers-là assez conservateur comme tel. Et il est influencé aussi par le nationalisme qui est très présent dans la société. C'est plus tout à fait le nationalisme d'Henri Bourassa qui était là un peu plus avant. Le nationalisme d'Henri Bourassa étant un nationaliste plus canadien comme tel. Celui auquel il adhère plus tôt, c'est celui de Lionel Groulx. Lionel Groulx, c'est plutôt un nationaliste qui reprend le Canada français au centre même de tout, qui en fait établit un peu la mission singulière qu'a le peuple canadien-français sur cette terre comme telle et l'importance de préserver la culture, l'histoire de ce peuple-là. Il y a une vision très messianique hein, derrière tout ça qui est très importante dans cette pensée-là. Et Jean Drapeau y adhère complètement. Il le dit, il va même citer souvent le chanoine Lionel Groulx. Il va fonder d'ailleurs une association de la jeunesse catholique dans le quartier de Rosemont. Il va demander, il va se rendre même chez le chanoine à Outremont, il va même lui demander de venir faire le discours d'introduction même de l'association lors de cette fondation-là. Et le chanoine va accepter. Et c'est le début à ce moment-là d'une très longue amitié entre Jean Drapeau et le chanoine Lionel Groulx.
Quand Lionel Groulx est décédé, c'était un des porteurs, je crois.
Oui, exactement. Tout à fait.
Qui portait d'ailleurs dans la biographie ici, on raconte que juste au moment d'inaugurer Expo 67, hein, la limousine se présente en face de la résidence de Lionel Groulx et on va visiter le site. Il est fier de montrer ça à son mentor. Parlons de la patente, l'ordre Jacques Cartier. Alors, ses adversaires politiques l'ont présenté souvent comme un animateur, quelqu'un qui jouait un rôle important. Qu'est-ce que c'est la patente? Qu'est-ce que c'est l'ordre Jacques Cartier? Et pourquoi c'était agité un peu comme un épouvantail par ses adversaires?
Bien, essentiellement, l'ordre de Jacques Cartier, c'était mis en place par des fonctionnaires fédéraux. Qui trouvaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de place dans la fonction publique très anglophone d'Ottawa. Et donc, c'est un genre de groupe de pression qui demeurait secret, un peu comme à l'image des francs-maçons et certaines associations de ce type-là. Et ça regroupe ensuite beaucoup de Québécois qui vont se joindre à ça et ça va s'élargir, évidemment, à l'Ontario et au Québec, disons ça comme ça. Drapeau a toujours réfuté avoir fait partie de l'ordre de Jacques Cartier parce qu'à une certaine époque, ça paraissait pas très bien. De par les secrets qui pouvaient circuler à l'intérieur même de cet ordre-là. Il y a une biographie de Jean Drapeau de deux auteurs, Purcell et McKenna, qui ont fait une recherche, entre autres, et ils ont interviewé quand même un certain nombre de personnes. Ils ont établi que, d'après les témoignages qu'ils ont eus, qu'effectivement, Jean Drapeau avait suivi toute la cérémonie d'intronisation et qu'il en était bien membre. Quant à son activité, est-ce qu'il y a participé? Il y a participé un peu, mais ce n'était pas quand même quelqu'un qui était très actif au sein de l'Ordre de Jacques Cartier.
Oui, mais vous dites qu'en 1942... Il y a le député Fred Rose, là, communiste, qui va dire qu'il faisait partie d'un complot de la patente.
Oui, en fait, si on veut juste un petit retour rapide, ouais. Fred Rose, c'est donc un député communiste qui est élu, qui est à la Chambre des communes. Et Drapeau va l'attaquer très durement, Fred Rose. Il associe les communistes, en fait, le trait de communiste, de toutes sortes de choses. Il fait une véritable chasse aux sorcières autour de Fred Rose. Et c'est pour ça que Rose réplique de cette façon-là comme telle. Oui, il accuse de faire partie de la patente, il accuse d'extrême droite, de s'inspirer des dictateurs européens, Franco, Salazar et compagnie. Donc, tout y passe. Mm-hmm. Oui. Et donc, Drapeau va le poursuivre en cours et il va gagner, finalement. Ouais. Fred Rose va devoir se rétracter sur ce qu'il avait dit.
Un gros 100 $
Un gros 100 $
Il commence sa carrière politique durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale qu'il entre en scène. Dans quel contexte, racontez-nous ce contexte d'arrivée de Jean Drapeau?
En 1940, Mackenzie King, qui est en élection, va promettre aux Canadiens de ne pas imposer la conscription obligatoire, donc l'enrôlement forcé des jeunes Canadiens. Et c'est ce qui va lui faire gagner l'élection. C'est ce que disent les observateurs et c'est ce que disent les analyses en général. En 1942, le contexte change beaucoup en Europe. La guerre ne se passe pas aussi bien qu'on voudrait. On manque de soldats parce que, bon, il y en a eu plusieurs qui ont été malheureusement tués et tout. Et on a besoin de plus de soldats. Et Mackenzie King est obligé de regarder du côté de la solution de la conscription. Alors, ce qu'il choisit de faire, c'est qu'il choisit de faire un plébiscite, une sorte de référendum pan-canadien, pour demander à la population de le libérer de cet engagement-là qu'il avait pris en 1940. Et donc, ce plébiscite a lieu le 27 avril 1942, pour nous situer un peu dans le temps. Et essentiellement, ça amène une réaction très, très forte des milieux nationalistes québécois. Et même Henri Bourassa, qui était à sa retraite, va sortir de la retraite, parce qu'il l'avait combattu aussi pour la conscription de la Première Guerre mondiale. Il va ressortir de sa retraite, va prononcer des discours. Tout ça s'organise au sein de la Ligue pour la défense du Canada, avec Maxime Raymond, qui est en fait un député ex-libéral à Ottawa. Et il va se joindre à ça toute une nouvelle génération de nationalistes qui sont très proches de Lionel Groulx. On peut penser à Michel Chartrand, on peut penser à André Laurendeau et à Jean Drapeau, évidemment. Jean Drapeau va devenir, entre autres, le secrétaire de la Ligue pour la défense. Encore une fois, on voit qu'il a toujours cette capacité-là d'organisateur, Jean Drapeau, comme il l'avait fait à l'université avec la Société des débats. Et donc, ça donne à ces gens-là un rôle de premier plan.
Et là, il y a le plébiscite.
Oui.
Et avant ou après, il y a une élection partielle.
Donc, c'est à l'automne 42. Peut-être juste finir l'histoire sur le plébiscite. Essentiellement, la campagne fonctionne très, très bien.
Oui.
Et si bien qu'au Québec, on se prononcera contre donc la conscription à 71 %, alors que tout le reste du Canada, le Canada anglais, va se prononcer complètement en faveur, donc opposé, et ils seront à 66 %. Donc, d'un côté, le Québec à 71 et de l'autre côté, en position inverse, le Canada anglais, 66 %. Donc, on a un joli pays divisé en deux. Si bien que le premier ministre Mackenzie King va attendre avant de mettre en place, avant de faire adopter la loi de la conscription comme telle.
Et donc, arrive cette élection complémentaire dans Outremont.
Exactement. Alors, Mackenzie King se ramasse avec le résultat du plébiscite sur les mains. C'est quand même pas facile de devoir gérer cette question-là. C'est très sensible. Alors, ce qu'il décide de faire essentiellement, c'est qu'il décide de nommer un sous-ministre à la Défense, qui est le major Léo Richer. Il décide de le nommer ministre de la Défense. Il décide de nommer un Québécois, donc, pour un peu plus, si vous voulez, faciliter la mise en place de cette loi-là sur la conscription. Et donc, on veut lui trouver un comté sûr et on décide évidemment qu'Outremont sera le comté parfait pour faire ça. Dans ce contexte-là, le Bloc populaire, la Ligue pour la défense du Canada, bref, raccourci, devient le Bloc populaire canadien, décide de ne pas présenter de candidat et le Parti conservateur non plus. Jean Drapeau, lui, de son côté, sollicite Lionel Groulx et va solliciter les gens du Devoir, Gérard Filion et compagnie. Et fort de l'appui de ces gens-là, va décider, lui, de se présenter comme candidat indépendant contre le candidat libéral, Léo Richer.
Et c'est là qu'il se fait connaître, on pourrait dire, du grand public.
Oui, il s'est fait connaître. On a fait un petit saut dans le temps, mais il s'est fait connaître lors d'un premier discours pendant la campagne.
Rabroué par Henri Bourassa,
par Henri Bourassa. C'était une de ses premières fois où il subit un camouflet public. Donc, on le connaît déjà un petit peu, son nom, à travers tout ça. La campagne de conscription avait très bien été pour les nationalistes. Ils avaient gagné très fortement. Donc, il en sort quand même avec un peu de prestige. Mais donc là, oui, c'est son premier pas, lui, tout seul, comme candidat dans Outremont. Et donc, il fait une campagne où là, il se déchaîne. Et là, il attaque de tous côtés. Il attaque autant le CCF qu'il attaque le Parti libéral lors de cette campagne-là. Mais il ne va pas gagner, sauf qu'il va quand même obtenir un nombre de voix assez respectable, près de 8 000 voix, en fait, dans un bastion libéral. C'est un résultat qui est, somme toute, assez solide. Lui donne, à ce moment-là, dans les milieux nationalistes, à tout le moins, déjà une bonne réputation.
Une bonne réputation, et on a l'impression que cette élection partielle va mobiliser la classe politique de l'avenir. Pierre Trudeau va faire des discours.
Absolument.
Michel Chartrand, je crois que son organisateur politique. C'est un drôle de duo, d'ailleurs, Jean Drapeau, Michel Chartrand, dans une élection.
Il faut comprendre qu'en fait, que Drapeau et Chartrand militent au sein du Bloc populaire canadien.
Oui, c'est ça.
Par contre, Simone Monnet-Chartrand, qui est évidemment l'épouse de Michel Chartrand, elle dira plutôt qu'elle trouve que cette candidature-là de Drapeau est étrange, parce que Drapeau, déjà à l'époque, dit qu'il est fait pour le pouvoir et tout. Donc, il indispose, il dérange quand même des gens, une frange des militants du Bloc
populaire. À ce moment-là, on a l'impression que Jean Drapeau a des ambitions politiques, disons, classiques et nationales. Il va se représenter, je crois, en 1944. Alors, on a l'impression que pendant un certain moment, bon, on le sait, nous, ce qu'il va devenir, mais il va hésiter entre une carrière politique nationale québécoise ou une carrière montréalaise?
Oui, donc en 1944, il va se présenter, cette fois-ci dans Jeanne-Mance, il va se présenter comme candidat bloquiste. En 1948, il va se représenter comme candidat indépendant, mais il ne fera pas toute la campagne, il va s'arrêter en chemin, il va en fait démissionner, disons. Oui, Jean Drapeau avait des aspirations importantes. En 1958, il va même faire une tournée du Québec. Il va faire quelques villes.
Publier ce livre.
Oui, voilà.
Jean Drapeau
excellent.
Vous parle.
Jean Drapeau vous parle, tout
c'est
à fait.
C'est un programme politique.
C'est un programme politique très solide. C'est un programme politique qui est fort intéressant à lire, surtout pour ceux qui s'intéressent à la Révolution tranquille. Il parle de quoi? Essentiellement, quelques grandes idées rapidement. La modernisation de l'éducation, la nationalisation de l'électricité. Et il parle d'une révolution pacifique. Alors, on n'est pas très loin, disons, des grands thèmes de la Révolution tranquille que Jean Lesage va mettre en place 2 ans plus tard. Mais il n'y a pas de suite à ça. Il n'y a pas véritablement de suite. Il y aura un candidat qui va se présenter dans le coin du lac Saint-Jean, qui sera battu. Et ça ralentit un peu les ardeurs. Ça fait en sorte que Drapeau ne donnera pas suite, ne formera pas un parti provincial national. Par contre, il faut dire qu'en 78, donc, si on fait un petit saut dans le temps, en 78, après la démission de Robert Bourassa, les libéraux vont contacter Jean Drapeau. Ils vont lui demander de se présenter comme chef. Drapeau répondra qu'il le ferait peut-être, mais qu'il ne veut pas de course à la direction. Il veut être comme couronné, alors c'est pas tout à fait dans les traditions du Parti libéral et ça ne se fera pas. Et puis en 80, c'est au tour de l'Union nationale cette fois-ci de le contacter pour qu'il devienne chef en septembre 1980. Et là non plus, Drapeau ne donnera pas suite à cette offre-là.
C'est vrai que là, se présenter l'Union nationale en 1980...
C'est plus risqué un peu.
Ça n'aurait pas été une belle fin de carrière. Allons tout de suite pour Montréal, le temps file, la commission Caron.
Oui.
Donc, il laisse de côté la politique en 1948, devient un avocat, va même se donner un petit coup de main pour la grève d'asbestos, mais on passe là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps. Arrive la commission Caron. Qu'est-ce que c'est cette commission? Et pourquoi, quel est son mandat et pourquoi va-t-il jouer un rôle si important?
En 1949, l'adjoint du service de police, qui s'appelle l'ancien adjoint, je devrais dire, qui s'appelle Pacifique Plante, on l'appelle familièrement là, Pax Plante, va fournir un certain nombre d'informations à un journaliste du Devoir, qui est Gérard Pelletier, l'une des trois colombes, qui sera l'une des trois colombes par la suite. Et Pelletier va écrire une série d'articles qui s'appelle « Montréal sous le régime de la pègre ». Et on aborde dans tous ces articles-là le jeu illicite qu'on trouve à Montréal, la prostitution, mais surtout une espèce de corruption. En fait, lui, à l'époque, on dit une tolérance de la police envers toutes ces activités illicites-là, mais ce qui induit en fait aussi la corruption. Et donc, ces articles-là vont faire scandale dans l'opinion publique, mais non seulement dans l'opinion publique, mais au niveau aussi de toutes les organisations catholiques qui vont décider de former un comité de moralité publique. Et ce comité de moralité publique-là va exiger qu'il y ait une commission d'enquête qui soit mise sur pied, ce à quoi un juge va donc accorder cette demande-là. Mm-hmm. Et donc, on met à la tête de ça le juge François Caron, donc la commission Caron, et on va nommer comme procureur public Pacifique Plante, qui est l'ancien adjoint, comme je le mentionnais, du directeur, et Jean Drapeau. Et là, évidemment, les gens, tous les médias sont braqués sur
ces travaux.
C'est juteux. Donc, tous les travaux sont braqués, sont suivis par... je pense même que Lise Payette a fait un téléroman là-dessus, Montréal, Ville ouverte.
Oui, absolument.
Et donc, c'est tout le monde suit ça, et ça donne une extraordinaire visibilité à Jean Drapeau comme procureur, et c'est là qu'il se fait connaître véritablement aux yeux de tous. Et en 1954, le juge Caron va déposer, en fait, un rapport à la suite de ses travaux. Un rapport qui, étonnamment, n'incrimine pas le politique, n'incrimine pas les politiciens.
Ah non, étonnamment, c'est
étonnamment,
drôle.
Étonnamment, oui. Étonnamment. L'histoire se répète parfois.
Oui, un petit peu, oui.
Mais, et donc... ouais. Et donc, en même temps, Camille Lienhoud, qui est le maire de Montréal à cette époque-là, a sondé de son côté un peu Maurice Duplessis, à savoir est-ce que j'aurai encore l'appui de la machine de l'Union nationale. Et Duplessis, ben, lui, a choisi un autre candidat. Il a choisi un sénateur, étonnamment, un sénateur libéral, Sarteau Fournier, comme candidat, si bien que Camille Lienhoud va décider dans ce contexte-là de démissionner, en fait, de ne pas démissionner, de ne pas se représenter, en fait. Voilà. Et Drapeau, lui, choisit de faire le saut et de devenir candidat à la mairie. Il a derrière lui, il faut dire, déjà l'appui de du comité de moralité publique qui se transforme en Ligue d'action civique, qui se transforme en parti politique.
C'est comme ses militants de base. On a l'impression que c'est son parti
Absolument.
Politique.
Et d'ailleurs, le programme électoral, son premier programme électoral, contient un certain nombre de réformes importantes visant à combattre toute la question de la corruption. Mm-hmm.
Donc, il se présente à la mairie en 1954. Un mot peut-être sur les institutions politique municipale de l'époque. Est-ce que le maire de Montréal a beaucoup de pouvoir? C'est pas tout à fait les mêmes institutions plus tard.
Le système politique en 1954, le système politique montréalais en 1954 est très particulier parce que le gouvernement Godbout, à l'époque, dans les années en 39, avait fait des modifications importantes. Il y a une partie du conseil municipal, un tiers des conseillers qu'on appelle les conseillers classés, qui sont non élus, mais qui sont nommés. Mm-hmm. C'est très particulier. Donc, un tiers, un bloc comme ça, un tiers de conseillers qui échappent au pouvoir démocratique, qui sont en fait, qui viennent des milieux d'affaires, qui sont nommés par...
Ou syndicaux, on a parlé de Louis Laberge qui a été...
Oui, tout à fait, qui peuvent être... Oui, donc de corporations ou d'associations comme telles, mais qui n'ont pas été élus. Ça, c'est très, très particulier parce que ça ampute tout le processus démocratique. Donc, on juge ce système-là antidémocratique carrément et obsolète jusqu'à un certain point. Le maire a très, très peu de pouvoir parce que c'est principalement le président du comité exécutif à ce moment-là qui, lui, gère très largement l'ensemble de l'administration municipale. Et donc, le maire a un rôle plutôt...
Presque d'apparat.
Presque d'apparat.
Oui, en tout cas, qui convenait peut-être à un homme comme Camille Lienhoud, mais pas un homme comme Jean Drapeau.
Pas un homme comme Jean Drapeau, effectivement.
Alors donc, il est élu en 54, une majorité assez forte quand même. Mais ce n'est pas un mandat très brillant. Il ne va pas nécessairement se démarquer. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher durant ce premier mandat qui va durer 3 ans?
Mais comme je l'expliquais, en fait, il y a très, très peu de marge pour le maire de Montréal dans ce système politique-là présent à cette époque-là. Ce qui lui laisse, c'est en fait, c'est qu'il prononce le Drapeau va faire beaucoup de discours, va se promener sur toutes sortes de sujets, des faits divers, toutes sortes de choses. C'est pas tout le temps lié non plus à la politique municipale. Il va faire des discours au Canada, au Québec, évidemment. Il va même se rendre en France. En France, il va faire une immense réception. Il va recevoir comme un véritable chef d'État. Ça va coûter une fortune, cette réception. Et là, les journalistes s'en mêlent. Et là, ça devient... Il y a beaucoup de raillerie autour de ça. On n'apprécie pas tellement ça. Le maire, je le dis, intervient sur différents sujets, mais il intervient aussi, par exemple, dans une élection partielle contre un candidat, Frank Henley, qui est soutenu par l'Union nationale de Maurice Duplessis. Il intervient contre, il veut se battre contre ce candidat-là, il veut le faire battre, en fait, ce qui indispose fortement Maurice Duplessis, qui est premier ministre du Québec. Mm-hmm. Et c'est pas rien d'indisposer Maurice Duplessis, nécessairement. Donc, il n'arrive pas nécessairement à
imposer un agenda.
Imposer son style, véritablement. Normand, comme on le verra plus tard, il est plutôt pris dans un rôle qui ne lui convient pas, pourrait-on dire. Il va proposer, entre autres, un projet de faire deux immenses autoroutes adjacentes au parc du Mont-Royal. Alors là, ça va être la tollée générale chez les citoyens, chez tout le monde, en disant ce projet-là n'a pas de bon sens. Bref, ça ne se passe pas très, très bien.
Sauf qu'il a un projet qui était un beau projet, je crois, mais avec le recul, qui était un projet, je crois, la Cité des ondes ou la Cité des médias, qui était à l'endroit où se trouve, tout près d'ici, vous savez, c'est HLM, là,
les habitations Jeanne-Mance.
Les habitations Jeanne-Mance.
Juste un peu à l'ouest d'ici,
voilà,
à l'ouest
exactement.
De la bibliothèque.
Ouais. Et là, les habitations Jeanne-Mance, c'était le projet de l'Union nationale.
Oui, bien, il faut comprendre que le maire travaillait déjà sur un projet de Place des Arts. Donc, plaçons ce morceau-là.
Oui.
Ensuite, lui, il voulait voir dans l'extension même de ce projet de Place des Arts-là, il voulait installer cette fameuse Cité des ondes où on parlait même à l'époque, on disait qu'il faut relocaliser Radio-Canada. Donc, Radio-Canada pourrait s'installer là. Il va être contré dans ce projet-là par M. Dauzois, qui est un conseiller au conseil municipal et qui, lui, veut plutôt construire, bien, en fait, vous le voyez maintenant, ce que sont aujourd'hui les habitations Jeanne-Mance, du logement social, en fait, raser un quartier de conditions difficiles pour en faire des habitations sociales. Et en bout de ligne, il a l'appui aussi de Maurice Duplessis, qui trouve une occasion dans ce projet-là de clouer le bec à ce maire qui s'est mêlé d'ailleurs de politique provinciale. Alors lui,
qui l'avait défié à la grève d'asbestos.
Et qui l'avait défié, on est passé rapidement là-dessus, mais effectivement, il avait défié une première fois à la grève d'asbestos. Et donc, c'est l'occasion parfaite pour Maurice Duplessis de lui clouer le bec et de lui imposer ce projet-là d'habitation.
Et là arrive cette
sociale.
Élection de 57 et ça va être une guerre de tranchées.
Et là arrive cette élection qui est presque une guerre entre les forces unionistes, donc Sarto-Fournier, qui est le candidat à la mairie, défendu par Maurice Duplessis. Et Drapeau aussi, il faut le dire, part avec un petit recul. Hein. Mm-hmm. Il s'est pas fait des amis non plus avec des journalistes, parce qu'une des mesures qu'il va mettre en place quand il arrive, c'est qu'il abolit, il y avait des primes qui étaient données aux journalistes qui couvraient l'actualité municipale. Drapeau va les couper en arrivant. Il va indisposer beaucoup de journalistes. Alors, il est traqué, il est suivi par les journalistes. Ça ne se passe pas très, très bien. Il a en plus contre lui toute la machine de l'Union nationale. C'est une campagne électorale qui est très, très difficile. Il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup de corruption dans le vote et compagnie. Voilà. Donc, c'est très, très difficile. Si bien qu'il va perdre l'élection et c'est Sarto-Fournier qui va gagner. En 57.
C'est ça. Donc, il perd cette élection de 57. Il jongle avec l'idée d'une candidature québécoise, on l'a vu à la fin des années 50, mais finalement, il revient au bercail et en 60, il se représente. Est-ce que c'est un nouvel homme qui se présente? Qu'a-t-il appris de cette première expérience? Comment s'y prend-il pour revenir au pouvoir et pour longtemps, pour 26 ans? Alors, comment s'y prend-il?
Il faut juste peut-être replacer un peu le contexte. Donc, en 60, 22 juin 1960, Jean Lesage est élu à Québec, met fin au long régime de Maurice Duplessis. Et c'est une nouvelle période, une nouvelle ère, comme on le sait, c'est la Révolution tranquille amène la mise en place d'un État moderne avec beaucoup d'outils et tout, donc en pleine expansion. Drapeau, lui, arrive à ce moment-là. La première chose qu'il va tenter de faire rapidement, pas trop entrer dans les détails, mais quand même, il veut changer le système politique municipal qu'il trouve archaïque. Entre autres, il veut l'abolition de ces fameux conseillers de classe C qui sont nommés, non pas élus. Donc, il veut faire un certain nombre de choses. Donc, il va envoyer un de son numéro 2, qui est Pierre Desmarais, il va l'envoyer à Québec, négocier pour tout ça dans le bureau du premier ministre, dans le bureau de Jean Lesage. Ça ne se passe pas très, très bien. Desmarais revient bredouille et puis obtient rien de Lesage. Alors, lui, Drapeau, décide d'aller à Québec, d'aller rencontrer Jean Lesage. Et là, il explique, il dit carrément à Lesage, bien, écoute, si vous ne modifiez pas, faites pas les amendements ou vous permettez pas que ces amendements-là soient faits, bien, moi, je ne me présenterai tout simplement pas et vous aurez sur les bras un maire unioniste et une opposition unioniste dans la plus grande ville du Québec. Ce que Lesage ne veut pas. Alors, Lesage va obliger, en fait, pour l'élection de 1960, qui est aussi un référendum, et qu'on consulte les Montréalais, à savoir sur un ensemble de réformes, dont l'abolition des fameux conseillers en question.
Et durant la campagne de 1960, il se passe des choses un peu spectaculaires. Hein? Il brandit des épouvantails. Racontez-nous un peu.
Bien, c'est un épisode peut-être un peu moins glorieux de l'histoire, mais bon, on a un devoir de mémoire comme historien.
Oui, oui.
Alors, En fait, ce qui arrive, c'est que la veille même du jour de l'élection, le sage, accompagné de la police provinciale, évidemment couvert par, bien couvert médiatiquement, là, tu vois, les médias sont utiles, ils apparaissent utiles. Ils font une descente dans un appartement où ils vont saisir un ensemble de plans, de documents, tout ça, et qui démontrent qu'il y aurait une certaine corruption, un certain problème au niveau. On veut fausser, en fait, le vote par télégraphe, parce qu'à l'époque, on peut encore voter par télégraphe. Et donc, ça fait tous les titres des journaux le jour même de l'élection. C'est un coup d'éclat incroyable. Et donc, ça influence inévitablement le vote et de façon importante. Sauf que, encore une fois, je reviens à McKenna et Purcell qui disent dans la biographie avoir interrogé Lucien Saunier, qui était le bras droit, le numéro 2 de Jean Drapeau à cette époque-là, et qui disent que essentiellement c'est un coup monté par les organisateurs même du parti de Jean Drapeau.
On a voulu faire croire à un complot ou un vol d'élection. Oui. Mais...
C'est
une mise en scène.
Oui, c'est tout à fait. C'est une mise en scène qui a été faite et qui a fonctionné parce qu'il va obtenir une majorité. Et là, vous le mentionnez tout à l'heure, Éric, pour longtemps.
Oui. Alors, une fois en place, il est là pour longtemps. Parlez-nous de la méthode Drapeau. Notamment son rapport si particulier aux médias. Caractérisé un peu son règne.
Oui, on peut peut-être juste ouvrir une petite parenthèse très rapide, si vous me permettez.
Oui.
En 60, il va laisser tomber la Ligue d'action civique. Il va choisir de fonder le Parti civique de Montréal. Il va s'allier donc à Lucien Saunier, qui va le suivre tout au long des années 60. Et beaucoup d'observateurs à cette époque-là disent... Donc, il laisse tomber tous ses anciens collaborateurs et tout. Disent bien, ça ressemble beaucoup à un club privé, ce club-là. Je dis ça parce que ça dénote beaucoup la personnalité de Drapeau, qui est assez autoritaire. Et Drapeau avait cette phrase, quand on lui parlait justement de ce nouveau parti, il disait ça ressemble plutôt comme un club privé. Bien, il y avait cette réponse-là. Souvent, il disait quelque chose. Il disait bien, en fait, la porte d'entrée est étroite, mais la sortie est grande. Donc, c'était sa définition de son parti comme tel. Donc, ça faisait bien son affaire. Il avait besoin d'un parti pour organiser en temps d'élection, tout ça, mais il n'avait certainement pas besoin de gens pour lui dire quoi faire et quoi penser, disons, dans l'orientation générale. Mm. La méthode Drapeau, bien, essentiellement, Jean Drapeau, c'est un homme qui était un travailleur infatigable. C'est quelqu'un qui se lève et qui dormait à peine 5 heures par nuit, qui se lève très, très tôt. C'est quelqu'un qui est dédié complètement passionné par la ville de Montréal. Ça, on peut pas le nier. C'est quelqu'un qui, souvent, soit lui-même au volant de sa voiture ou avec son conducteur, sillonnait les rues de Montréal et essayait de trouver tout ce qui ne fonctionnait pas, les problèmes et tout, et qui ramenait tout ça à l'hôtel de ville. Je pense que le maire Bourque, d'ailleurs, faisait un peu la même chose par la suite, inspiré justement par Drapeau, et donc faisait faire les corrections par ses directeurs de service. Et donc, c'est un Jean Drapeau qui est assez différent de celui de 1954. Et au niveau des médias, bien là, on voit tout le côté autoritaire de Drapeau, c'est-à-dire qu'il ne jouera plus le jeu des médias, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir les moments où il va, qui va interpeller les médias sur des questions très précises. Il ne voudra pas être en contact souvent avec les médias, les journalistes. Ça ne l'intéresse pas.
Donc, là, il n'y a pas beaucoup de scrum avec Jean Drapeau.
Et quand il parlait aux médias, bien, c'est évidemment parce qu'il y avait quelque chose, un point précis, un projet, quelque chose à faire passer comme tel. L'anecdote aussi peut être intéressante, c'est que de temps en temps, il pouvait prendre le téléphone et appeler les caricaturistes pour leur proposer des thèmes, en leur disant « Ah, tu pourrais me faire un petit dessin sur telle question et tout ». Et puis, ça a donné des dessins assez exceptionnels. On pense, entre autres, à Girard, là, qui a fait des choses assez intéressantes dans les pages.
Ce qui est intéressant aussi, corrigez-moi, mais il a animé une émission, je crois, en direct. Il recevait les questions des auditeurs tous les dimanches.
Oui, bien, ça ressemble un petit peu à ce qu'un autre maire a fait.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est une façon aussi de court-circuiter les médias. C'est-à-dire qu'il s'adressait directement au public en répondant à leurs questions.
Toujours. Donc, cette méfiance qui est héritée de 1954 là, et des campagnes, entre autres, plus précisément de 1957, il va l'avoir jusqu'à la fin de sa carrière politique. Mm-hmm. Il ne fait pas confiance aux médias du tout.
Il disait « Je ne réponds jamais à des questions hypothétiques, etc.
Voilà.
Quelles sont les grandes priorités du maire Drapeau durant les années 60? Lorsqu'il arrive en poste, quelles sont ses priorités?
Bien, il y a beaucoup de travaux de modernisation. Quand il arrive en 1960, il faut aussi comprendre que Montréal, entre autres le centre-ville, est en pleine explosion. On commence la construction de la place Ville-Marie, on a plusieurs édifices autour, la place Bonaventure est là, les travaux ont commencé aussi à la place des Arts. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au centre-ville. La ville se modernise, si on peut dire, si on associe les gratte-ciels à la modernisation, bien oui, Montréal et le centre-ville, entre autres, est en train de se moderniser. Donc lui, quand il s'est associé à Lucien Saunier, essentiellement, Saunier défendait le projet d'un métro. C'est très, très important pour lui. C'est lui qui l'amène. Et donc, Drapeau le met dans le programme. Et donc, ça, c'est un des grands projets de construire un métro qui soit moderne, efficace et tout à Montréal. Plusieurs projets autoroutiers, dont l'autoroute des Caries, en tranchée, 6 voies. On est à l'époque de la voiture. On est à l'époque où il y a des problèmes automobiles, de circulation automobile importants. Ça semble être un problème contemporain. Ouais. Et donc, on va construire beaucoup, beaucoup d'autoroutes au centre-ville, parfois en cicatrisant le centre-ville.
Le métro, c'est quand même exceptionnel. On voit là qu'on a confié à la Caisse de dépôt le projet. Enfin, c'est la Caisse de dépôt qui est en train de financer un projet de train là, pour l'aéroport.
De REM, oui, tout à fait.
Mais là, quand on pense à ce métro de Montréal, là, qui, en quelques années, ça prend forme, tout ça est fait par l'administration montréalaise.
Une petite nuance à apporter. Ouais. C'est fait par un bureau, en fait. Le bureau de réalisation de ce métro-là se fait par ce bureau-là, qui est dirigé par Lucien Lallier. Essentiellement parce qu'on veut justement éviter toute la lourdeur administrative de la ville. On l'a mis dans un bureau à part, qui évidemment a tout l'appui politique solide de Drapeau et de Saunier, c'est sûr et certain. Oui. Alors, c'est ce qui a permis de réaliser et de le faire. Le choix aussi, le type de métro qu'on a choisi facilite aussi la construction, entre autres, dans le sol, dans le roc montréalais. Mmh. On a choisi une technologie française sur pneumatique, alors qu'on n'a pas choisi, bon, dont le gabarit est beaucoup plus petit comme tel, contrairement à plutôt des métros qui sont roues d'acier sur rail. Tout ça fait en sorte que ces choix-là qui ont été faits sont judicieux, sont même économiques dans certains cas, et vont permettre de réaliser assez rapidement le métro, le réseau initial qui sera de 26 stations.
26 stations en 4 ans.
Voilà. Ouais.
En 4 ans, c'est quand même incroyable.
22 km de couloir.
Et il n'y a pas eu de commission d'enquête sur, je ne sais pas moi, le crime organisé qui aurait pris 20% une cote et tout ça. Ça s'est passé.
Non, et même on a donné les contrats à des entrepreneurs différents pour différents aspects de la réalisation. Et ça fait même en sorte que ce projet-là de construction s'est fait à coût moindre que prévu.
À coût moindre?
Oui. Il y aura d'autres projets.
On a le droit
où ça
à la nostalgie. Ce soir. Expo 67,
est-ce que c'était fait à coût moindre?
Ça ne s'est pas fait déjà à coût moindre. Déjà, il y avait des bonnes habitudes.
Il y a un peu d'inflation. Ouais.
Mais est-ce que quand il arrive en 60, ce projet est dans les cartons? Est-ce que c'est quelque chose où c'est vraiment son initiative? C'est lui qui fait. Quelle est la différence?
Les précédents maires, Sarteau-Fournier et Camillien Houde, ont voulu amener l'Expo 67, comme d'ailleurs ils voudront amener, ils ont voulu aussi travailler un peu les Jeux olympiques. Ça, c'est les grands événements qui faisaient rêver beaucoup les élus à cette époque-là. Mais Drapeau, lui, à la différence des deux précédents, va réussir, face au désistement soudain de Moscou, va réussir à amener tout ça, à amener l'Expo universelle en 1967 à Montréal.
Parce que c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un homme de terrain, hein? Il voit les petits défauts de Montréal, puis il rapporte ça. Puis en même temps, il développe un réseau international, il est à tu et à toi avec des personnalités importantes pour influencer des décisions comme celle-là. Donc, un mot sur De Gaulle. Alors, l'Expo 67, c'est l'avenue des grands chefs d'État. Jean Drapeau, on le voit avec la technologie des pneumatiques, avec Roger Taillibert plus tard, il a un faible, on pourrait dire, pour le génie français.
Oui.
C'est un francophile.
Oui.
Il aime beaucoup la France.
Oui.
Il admire le général de Gaulle.
Oui, l'homme du 18 juin, l'appel du 18 juin. Hein.
Mais là, ce discours, comment réagit-il au Vive le Québec libre? On a cette histoire de micro, là, mais racontez-nous.
C'est qu'il est... Bon, d'ailleurs, il accompagne sur le fameux balcon. Là. Il est aux côtés du général quand le général lance son fameux « Vive le Québec libre ». Et là, il est très mal pris parce qu'il sait très, très bien qu'à Québec et à Ottawa, qui sont ses bailleurs de fonds d'Expo 67, ne seront pas contents. Et donc...
Ceux qui ont financé son île, là?
Ceux qui ont tout financé, hein? Parce qu'il faut dire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons qu'Expo 67, c'est aussi c'est plus de 500 millions d'investissements de la part de Québec à Montréal pour toutes sortes de projets, des autoroutes, tout ça. Donc c'est énorme pour l'époque, les sommes qui sont investies là-dedans. Mais donc, c'est pas facile, il sait pas trop sur quel pied danser. 48 heures après, il y a un dîner qui est organisé, le dîner d'honneur qui est organisé pour le général de Gaulle, et là, c'est là qu'il va danser sur plusieurs plusieurs pieds en même temps. Il va d'une part commencer son discours en disant la réaction qu'on a sentie dans les milieux nationalistes, sans les nommer, c'est pas de l'émotion, c'est pas de la nostalgie que ressentent ces gens-là envers la France, parce que ça fait plus de 200 ans que vous nous avez abandonnés ou que vous n'êtes plus avec nous. Alors ça, c'est la partie plus négative. Et puis il va se faufiler en habile orateur qu'il est pour dire que, somme toute, il y a longtemps qu'un chef d'État français s'est intéressé autant au Québec que le général de Gaulle, en espérant que tout ça donnera quelque chose et qu'on ne sera pas déçus en bout de ligne. Donc, il fait de l'acrobatie. Le discours en tant que tel, la structure même du texte est fort intéressante à lire et à regarder parce que...
Il y a plusieurs couches
et il tente de satisfaire autant le gouvernement du Québec, Ottawa, que ne pas non plus froisser le général de Gaulle, pour qui il a une très grande admiration.
Voilà, et en même temps, de combiner son adhésion au Canada, mais son nationalisme canadien-français et tout ça. Hein,
voilà,
aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, un petit saut dans le temps, 1969, ce fameux règlement contre les manifestations, là, il faut voir qu'au tournant des années 70, on a l'impression que ça s'embrase, hein, qu'il y a beaucoup de manifestations, qu'il y a beaucoup d'affrontements, il y a une jeunesse qui entre en scène. Jean Drapeau... comment réagit-il? Comment voit-il? Comment perçoit-il tous ces événements?
Mais 69, en fait, c'est peut-être le préambule aux événements d'octobre de 70. Oui, il y a beaucoup de manifestations. Il y en a plus d'une centaine dans l'année 69. Ça vient autant de groupes de gauche, ça vient autant des nationalistes, ça vient autant des étudiants, McGill français, etc., tout ça. Il y a même, à un moment donné, une bombe qui va exploser à proximité de la maison familiale. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes chez lui. Ça l'atteint directement. Son propre restaurant aussi, le Vaisseau d'or.
Ouais.
Et donc, ça crée chez lui, ça l'atteint donc personnellement, ça crée chez lui beaucoup d'incertitudes, tous ces événements-là. Et donc, en plus, le 7 octobre 69, les policiers et les pompiers vont décider de débrayer pendant une journée complète et une nuit aussi complète.
Et c'était avant la loi des services essentiels?
C'était avant la loi des services essentiels. Et donc, il n'y a pas de service, il n'y a aucun policier sur le terrain. Et donc, la nuit du 7 octobre au 8 octobre, alors là, à Montréal, c'est l'anarchie totale, des centaines de vitrines brisées. On parle de 455 ou 456 vols, littéralement, de magasins, de boutiques et tout. Il y a même un mort, à un moment donné, à travers cette nuit-là. Donc, c'est l'anarchie complète. Ça dresse la table un petit peu, comme je le disais, pour les années 70 et tout. Drapeau, lui, réagira essentiellement en passant un règlement interdisant les manifestations comme telles. Ça aussi, on pourrait... Ça nous rappelle d'autres événements plus contemporains. Et donc, en 70, là, on est dans ce contexte d'ébullition-là. On est dans cet état-là. Il y a aussi le FLQ, donc les enlèvements, on le sait, et la fameuse crise d'octobre 70.
Est-ce que c'est lui qui souhaitait l'armée à Montréal?
Bien, Drapeau, oui, a demandé l'armée. Drapeau n'a pas confiance en sa police. Hein. Comme je l'expliquais, il est en négociation sur... Bon, on peut rentrer dans les détails pour les caisses de retraite et tout ça. C'est pour ça que ça se passe très, très mal avec les policiers. Donc, en 70, il n'a pas confiance dans les forces policières montréalaises. C'est pourquoi il demande l'intervention de l'armée. Il demande que l'ordre soit rétabli. Il faut se rappeler que Drapeau, on l'a dit, c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui croit en l'autorité. Et donc, pour lui, il est tout à fait normal de faire appel à l'armée. Et donc, il fait pression sur Ottawa pour que l'armée intervienne. Et ce qui est paradoxal, ou en fait qui est un peu même tragique à la limite, c'est qu'on est en campagne électorale municipale en octobre 70.
On va l'accuser d'instrumentaliser tout ça.
Absolument, on est en pleine crise d'octobre. Donc, dans la nuit du 16 au 17 octobre, c'est la loi des mesures de guerre. L'armée va entrer au Québec. On est, pendant ce temps-là, à Montréal, en campagne électorale. D'ailleurs, il est confronté à un parti d'opposition qui est le FRAP, le Front d'action politique, dont plusieurs candidats vont être arrêtés, vont être envoyés en prison avec les 470 autres là, qui sont arrêtés à ce moment-là, artistes et nationalistes et tout autre. Et ça crée donc un contexte incroyable. Et Drapeau va en rajouter une couche en accusant donc les gens du FRAP, de ses adversaires politiques, en les accusant d'être des anarchistes, d'être des communistes, de vouloir renverser la démocratie, de verser le sang, etc., etc. Il va y aller très, très fort.
Il va presque soutenir cette thèse du complot qui a été développé par la suite. Là, vous savez, il y a eu cette conférence de presse du 14 octobre, je crois, avec les chefs syndicaux, René Lévesque.
Il va Claude Ryan du Devoir, qui était là aussi.
Claude Ryan, le grand complotiste, là. Donc, il va soutenir cette thèse grand comploteur plutôt, il va soutenir cette thèse qu'elle... d'un gouvernement qui se préparait, là, qui était prêt à prendre le pouvoir.
D'un gouvernement parallèle, voilà, qui allait renverser le gouvernement Bourassa qui était en poste à Québec. Oui, effectivement. Mais en fait, ça va exactement dans sa stratégie politique, dans sa campagne électorale, en fait. Mm. Et puis, ça va marcher. Ça, il va obtenir de très, très bons résultats. Il va avoir, en fait, les 52 sièges. Donc, il n'y aura pas d'opposition du tout. Il va avoir 52 sièges à lui au Conseil. Le Conseil est complètement sous sa
botte.
Sous sa botte.
Parlons de 1976. Alors, on a commencé avec le métro qui était moins cher que prévu, Expo 67, et là, on arrive
On
arrive aux Jeux olympiques. Là aussi, on a ce bilan, ce passif lourd, mais il a été déterminant dans l'obtention des Jeux.
Absolument. Absolument. Encore une fois, Drapeau, et contrairement aux autres maires qui avaient aussi tenté, va réussir là où les autres n'avaient pas réussi, va obtenir les Jeux. Et ça va se faire... à partir du moment où il obtient les Jeux, en fait, le maire ne travaille que sur pratiquement ce projet-là. On dit à tel point qu'il y a une élection municipale en 1974 et il va presque oublier l'élection municipale parce qu'il est... Il est pris complètement
absorbé
par ce projet-là de Jeux olympiques comme tel. Il va choisir, encore une fois, il se tourne vers la France pour le concept. Il aime bien ce qui a été le fameux stade qu'il construit, là, le Parc des Princes à Paris. Il aime bien ce stade-là. Il aime bien l'architecture. D'ailleurs, quand on regarde les deux, on voit bien qu'il y a une famille. C'est fait par M. Taillebert, un architecte français. Donc, il va...
Qu'on surnommait alors le Michel-Ange du béton.
Le Michel-Ange du béton. Ah, tu vois, je m'apprenais quelque chose. Et donc, le maire a choisi le concept architectural, choisi l'architecte et tout, et puis il va présenter, je pense que c'est en 72, où il présente le premier concept et tout. Mais malheureusement, bon, le concept, vous le connaissez, tout le monde connaît le stade maintenant. Malheureusement, il y aura plusieurs problèmes dans le dossier du stade, notamment la qualité des sols au départ. On a mal évalué la qualité des sols pour soutenir un bâtiment aussi lourd, aussi immense. Il faut injecter du béton dans le sol pour le solidifier comme tel. On a des problèmes avec les plans. Les plans n'arrivent pas. La firme québécoise qui était mandatée pour le faire n'y arrive pas. Et donc, 2 ans avant les Jeux, en 1974, il n'y a pratiquement rien qui a levé de terre. On est encore au niveau des fondations. Et en 1975, donc, Bourassa, un peu inquiet, Robert Bourassa, va convoquer Jean Drapeau à Québec pour qu'il vienne présenter aux élus québécois où en sont les choses et peut-être pour les rassurer. Alors, Drapeau va arriver là, évidemment, comme il le fait si bien dans ses présentations, il est très convaincant, il se veut très convaincant et tout. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens autour qui ne croient pas qu'il va y parvenir, qu'il va arriver à finaliser les travaux dans les temps nécessaires. Si bien qu'en novembre 1975, on va créer la régie des installations olympiques et on va retirer la gestion des travaux à la Ville de Montréal. Et on va, donc, c'est la régie qui va s'en occuper. Et là, on change de rythme complètement. On va abandonner un certain nombre de choses qui avaient été prévues dans le plan initial. Le Mans, entre autres, ne sera pas... On ne fera que le nécessaire, ce qui est nécessaire pour que les Jeux se déroulent bien. Et là, on va travailler jour et nuit. Et on va finalement réussir à présenter les installations olympiques à temps là, pour les Jeux comme tels. Mais on est passé très, très proche d'une immense catastrophe. Et sans compter les coûts, parce que quand Drapeau va en 1975 à Québec, on est déjà rendu à 580 millions. On avait prévu 310 au départ. On est rendu à 580, ça ne s'arrêtera pas là. Ça va totaliser 1,4 milliard finalement, ce projet-là. Donc, on se ramène en 76. C'est gigantesque comme somme. Et donc, on dit que Drapeau aura un moment de gloire en hissant le drapeau au sein même du stade olympique, mais que ce sera à peu près le seul moment où il aura, parce qu'en 76, 15 novembre 76, une date importante dans l'histoire du Québec, le gouvernement Lévesque est élu et rapidement, le gouvernement Lévesque va mettre en place une commission d'enquête qui va être menée par le juge Malouf et dont les conclusions vont sortir en 80 et les conclusions vont être dévastatrices pour le vert drapeau. Ça va d'ailleurs lui faire perdre cette invincibilité électorale qu'on lui donnait auparavant.
Alors, il y a ces grands projets, métro, expo, Jeux olympiques, mais en même temps que tous ces projets prennent forme, on lui reproche de négliger l'économie de Montréal, on lui reproche le fait que Montréal va peu à peu traîner de la patte comparativement à une ville comme Toronto. Est-ce que ces critiques-là sont fondées? Il y en a d'autres. Hein? La ville-centre va, c'est un peu se dépeupler, va aller en deçà du 1 million. Beaucoup de gens vont en banlieue. Est-ce que ces griefs sont fondés?
Ce serait exagéré de mettre sur le dos Jean Drapeau le fait que Montréal n'est plus la capitale financière, économique du Canada, la métropole, en fait, économique et financière. Parce que ce mouvement-là a commencé dans les années 30. Déjà, l'activité boursière est beaucoup plus importante dans les années 30 à Toronto. Les années suivantes, les décennies suivantes, voient partir un certain nombre de sièges sociaux qui vont se diriger vers Toronto. La population, la courbe démographique aussi est beaucoup plus importante à Toronto. En 76, donc, Toronto, la population de Toronto dépasse celle de Montréal. Donc, de dire que Jean Drapeau en est responsable, on ne peut pas véritablement dire ça. Ce qu'on peut peut-être dire plus particulièrement, et les critiques sont assez sévères là-dessus, c'est sur son bilan, sur les questions sociales, en matière d'habitation, en matière... Montréal est une ville où le taux de chômage est très, très élevé, où le taux de mortalité infantile est très, très élevé dans plusieurs quartiers défavorisés, beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne. Ça, ce sont des données qui sont très, très importantes. En matière aussi environnementale, Drapeau n'a pas travaillé. Donc, on rejette toujours, en 86, 87, on rejette toujours les eaux usées carrément dans le fleuve. Donc, sur ces questions-là, sociales et environnementales-là, Drapeau en a peut-être fait un peu moins. Et c'est là-dessus que des groupes comme le Front d'action politique, le FRAP, et plus tard le RCM vont l'attaquer.
La question des quartiers aussi, hein? Peut-être le fait que les quartiers étaient... un peu laissés à eux-mêmes, où il n'y avait pas de...
Essentiellement, les quartiers centraux, hein, quand on fait des autoroutes en tranchées, particulièrement l'autoroute Ville-Marie, on va aussi amener Radio-Canada, tout ça, on rase une bonne partie du Faubourg Amelas. Tous ces projets-là vont déstructurer plusieurs quartiers centraux, et donc, oui, ça amène... Ça déconstruit une ville dans certains quartiers. Oui, ça a des effets durables qui sont
On a l'impression que l'arrivée d'Yvon Lamarre comme président du comité exécutif en 78 va donner un petit coup de barre, que ça va justement peut-être aider Jean Drapeau à se recentrer sur ses enjeux. Est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est le cas. On peut dire aussi que Lamarre a été dans les fins posées par les milieux d'affaires qui vont dire à Drapeau, si tu n'acceptes pas Lamarre dans ton équipe, tu n'en fais pas ton président de comité exécutif, on ne t'appuiera pas. Parce que déjà, le projet olympique ayant coûté 1,4 milliard de dollars, ce qui est immense, il y a toute cette question financière-là qui est très importante pour les gens d'affaires, qui ont vu aussi, il faut le dire, on n'en parle pas, mais ça pourrait être l'objet aussi de notre discussion, mais tout le fardeau fiscal des Montréalais et des commerces, c'est considérablement alourdi avec toutes ces dettes-là à payer en partie, parce que Québec en prendra aussi une partie. Mais Lamarre est imposée donc par les milieux d'affaires. Et oui, Lamarre a une conscience sociale. Et d'ailleurs, le programme électoral va changer de nature. On n'est plus, dans les années 80, sur de grands projets, de grands événements. On aura les Floreliers en 80, mais ça n'a rien de comparable avec l'Expo 67 ou les Jeux olympiques. On est plutôt dans des projets qui sont d'habitation, par exemple, opération 20 000 logements. On est dans des opérations de revitalisation d'artères commerciales. C'est plutôt vers ça que le programme tend comme tel. Et oui, la nature même des interventions va changer considérablement.
Alors, racontez-nous, on a quelques minutes, le contexte de départ de Jean Drapeau. Il quitte en 1986. Quel contexte?
Bien, déjà, en 82, on peut dire que Jean Drapeau a des ennuis de santé. Donc, ça commence en 82. En 86, il y a un problème de santé important, une attaque comme telle. Il tombe dans le garage alors qu'il se rend à sa voiture et tout. Et donc là, il est très, très affaibli. Et là, il n'a pas d'autre choix que de quitter la politique. Il le fait à contre-cœur, il le fait presque le cœur brisé. Quand il l'annoncera, il le fait, dit-il, à l'ombre de ses pyramides, parce que c'était toujours à lui, c'était ma ville, c'était mes pyramides, c'était mes Olympiques et tout. Et il va le faire à l'ombre de ces pyramides olympiques-là. Et il va le faire le cœur brisé. Il va littéralement pleurer Jean Drapeau quand il va annoncer qu'il doit quitter la vie politique. Il le fait à regret.
Par la suite, il y aura une nomination, il va être...
Par la suite, il va être nommé par son ami Brian Mulroney, qui est premier ministre du Canada, ambassadeur à l'UNESCO jusqu'en 91, donc de 86 à 91, donc il va jouer un rôle là. Et puis Jean Drapeau, il va mourir en 1999, entouré de sa famille dans sa maison de Rosemont. Ouais.
Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce long règne, selon vous, de Jean Drapeau? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bien, on doit retenir de Jean Drapeau que c'était, on peut dire, un idéaliste. On peut dire que c'est un bâtisseur aussi, Jean Drapeau. On peut dire qu'il a, en fait, réussi à faire passer Montréal, cette ville sulfureuse, aux bars illicites, à la prostitution, aux jeux illégaux. Il a réussi à faire passer Montréal, avec cette réputation un peu enviable-là, disons, à une ville de grandeur, de compétence, de renommée internationale. Avec les grands événements, il a, malgré le déclin, malgré le fait que Montréal n'est plus la métropole financière du Canada, il réussit quand même à donner une très grande visibilité à Montréal et faire de Montréal, si elle n'est plus métropole canadienne, elle est tout de même l'une des métropoles dans lesquelles on retrouve une vie culturelle forte, une vie culturelle importante. Montréal est une ville bilingue, mais elle est aussi une ville francophone d'importance. Donc, il va donner à Montréal une stature internationale, je pense, qui nous a grandement servi.
On a l'impression que tous les maires, par la suite, se comparent à lui. Hein? Il est comme un point de comparaison.
Bien, le notre maire actuel, Denis Coderre, souvent va se référer à Jean Drapeau. Je pense qu'il se réfère donc à ses grands projets, à cette espèce d'âge d'or-là que Drapeau a créé avec tous ces grands projets-là, qui ne seraient peut-être malheureusement plus possibles aujourd'hui.
Jean-Charles Parmeteau, merci beaucoup.
Merci, Éric Bédard.
Pour cet entretien. Alors, pour en connaître davantage sur Jean Drapeau, il faut lire le seul livre qu'il a publié. Jean Drapeau vous parle, un livre à la fin des années 50, publié alors qu'il se projetait sur la scène québécoise. Le livre le plus récent, Le maire qui rêvait sa ville, un livre de Benoît Gignac, qui est un portrait, on pourrait dire, de Jean Drapeau. Et le livre probablement qui fait référence, la biographie qui fait référence encore aujourd'hui, même si elle a été publiée en anglais en 80 et en français en 81, est celle de Susan Purcell et Brian McKenna.
Donc, très fouillé.
Très fouillé. Ils ont fait des entrevues avec beaucoup de gens. C'est très intéressant, très captivant. Ça se trouve dans les bouquineries assez facilement ou à la bibliothèque. Donc, Jean Drapeau. Donc, merci beaucoup.